Tout au long de cette année scolaire, nous avons lu ensemble et médité l'épître de Paul aux Philippiens. Et nous arrivons maintenant à la fin de cette épître. Et donc, en ce premier dimanche de juillet, dernier dimanche de l'année scolaire, nous terminons aussi donc cette épître de Paul aux Philippiens. Je vous invite à lire dans Philippiens, au chapitre 4, les versets 10 à 23. Philippiens, chapitre 4, les versets 10 à 23. Paul parle aux chrétiens de Philippe dont il vient de recevoir un don alors qu'il est en prison. Il dit « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur à voir refleurir votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'aviez bien, mais l'occasion vous manquait. » Je ne dis pas cela en raison de mes besoins, car j'ai appris à me contenter dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à mon épreuve ou à ma détresse. Vous le voyez vous-même, Philippiens, au commencement de l'Évangile, quand j'ai quitté la Macédoine, aucune église, si ce n'est la vôtre, n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous avez été les seuls à le faire, car à Thessalonique déjà et à deux reprises, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche le don. Ce que je recherche, c'est le fruit abondant qui sera porté à votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance, je suis comblé, ayant reçu par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À Dieu notre Père, la gloire au siècle des siècles. Amen. Saluez tous les saints ou chaque saint en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, principalement ceux de la maison de César. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec votre esprit. Jusqu'ici notre lecture. Est-ce que vous connaissez de ces gens qui sont très généreux, mais qui ne savent que donner et jamais recevoir ? Ce sont des gens magnifiques, admirables, mais qui pourtant peuvent parfois rester un peu lointaines dans leur générosité à sens unique. On ne sait pas comment leur faire plaisir. Leur plaisir, c'est de donner et pas de recevoir. Il est très difficile de leur rendre quelque chose. Et on se sent toujours un peu en dette à leur égard. Certains parents sont comme cela. Certains chrétiens très engagés ou très généreux peuvent l'être aussi. Il n'est pas facile de rester simple dans une relation marquée par beaucoup de dons de soi. L'apôtre Paul fait partie de ces gens qui ont beaucoup donné. Il s'est donné corps et âme pour l'Évangile, pour l'Église. Il s'est donné sans compter pour les chrétiens, pour l'œuvre de Dieu. Jamais il n'a ménagé sa peine. Il n'a reculé devant aucun sacrifice. Il a veillé même à travailler de ses propres mains pour ne pas être à charge des églises qu'il fondait. Autrement dit, une générosité à toute épreuve. Mais cet apôtre, si engagé, si impliqué, sait aussi recevoir. Sait aussi accueillir les dons qu'on lui fait. En toute simplicité, avec reconnaissance. C'est ce que nous découvrons ici dans ce texte et c'est ce qui rend ce texte très touchant. Paul est en prison à cause de l'Évangile, je l'ai dit tout à l'heure. Les chrétiens de Philippe lui ont fait parvenir un don. Ils l'ont transmis par l'un des leurs qui s'appelle Épaphrodite. Épaphrodite a fait le voyage jusqu'à Rome, jusqu'à Paul. Il l'a rejoint jusque dans sa prison. Et Paul garde vraiment pour la fin de sa lettre l'expression du merci qui brûle au fond de son cœur pour les chrétiens de Philippe. Et ce merci, il l'exprime, nous l'avons vu, avec beaucoup de spontanéité, de plusieurs manières. Il dit combien il a apprécié ce que les chrétiens de Philippe ont fait pour lui. La première expression se trouve au verset 10. « Je me suis grandement réjoui, je me suis grandement réjoui dans le Seigneur de voir refleurir votre intérêt pour moi. » Les mots de Paul sont simples, mais j'en relève vraiment un trait. Le fait que Paul dit vraiment très clairement la joie qu'il a eue lui-même de ce qu'il a reçu. « J'ai éprouvé, dit-il, une grande joie. » Ailleurs, Paul dit « Je remercie le Seigneur pour ceci et pour cela. » Mais ici, Paul ne dit pas « Je remercie le Seigneur, mais j'ai été réjoui. » Et il dit par là qu'il a été touché personnellement par ce qu'ont fait pour lui les Philippiens. De même, à la fin de sa phrase, Paul dit « J'ai été très touché par la manifestation de votre intérêt pour moi. » Et là aussi, il se situe sur un registre personnel. « Vous avez fait cela pour moi, je l'ai reçu comme tel, ça m'a fait une grande et belle joie. » Ça semble tout simple de dire les choses ainsi, mais il faut peut-être reconnaître que ici ou là, entre chrétiens, on ne parle pas toujours de cette façon-là, de manière aussi directe. Imaginons une autre tournure qu'on pourrait peut-être entendre de temps en temps dans notre Église. « Je rends grâce au Seigneur d'avoir vu refleurir votre intérêt pour le ministère de l'Évangile. » C'est presque la même chose. Sauf que si les Philippiens ont mis de l'affection pour Paul dans leurs gestes, s'ils l'ont fait avec une intention personnelle pour Paul, si Paul rend grâce au Seigneur et s'il remercie pour l'intérêt pour le ministère de l'Évangile, on passe complètement à côté de ce qu'ils ont voulu faire très personnellement pour l'apôtre Paul. L'attention à l'égard de Paul serait complètement zappée par une telle manière de faire. Au chapitre 1, Paul a dit « Je remercie Dieu pour la part que vous prenez à l'Évangile. » Mais ici, il n'oublie pas de dire « Je vous dis merci pour ce que vous avez fait pour moi. » Il n'oublie pas. Il y avait de l'affection pour lui. Il y avait de l'intérêt pour lui et pour son ministère. Et il le souligne. Il dit qu'il a été vraiment atteint par cela. Paul tient à ce que ses auditeurs sachent que leur orientation personnelle a été reçue 5 sur 5. Je pense que cette simplicité de relation est bonne et nécessaire. Je crois qu'il faut l'entendre, parce que parfois nous avons des petites tournures de phrases qui sont un petit peu trop chrétiennes, me semble-t-il. Et à vouloir parfois tout spiritualiser, on zappe la dimension humaine, le côté personnel et relationnel. Et il est important, par exemple, quand des frères et sœurs ont donné ou se sont donnés, on peut remercier Dieu pour ce qu'ils ont fait, bien sûr. Mais si on est avec ses frères, avec ses sœurs qui ont donné, qui se sont donnés, il fait remercier eux aussi. Ne pas les oublier au profit du Seigneur et de son œuvre, car ils ont donné, ils se sont donnés. Paul donc a cette reconnaissance très, très personnelle de ce qui a été fait pour lui. C'est un premier point que nous pouvons noter. Mais quand même, pourquoi Paul ajoute-t-il « J'ai été grandement réjoui dans le Seigneur de ce que vous avez fait pour moi ?» Ce n'est pas juste une formule pieuse. Mais il semble que ce que Paul dit ici, c'est qu'il veut montrer toute la portée du geste des Philippiens. Votre geste pour moi et pour l'œuvre de Dieu a aussi eu vraiment un retentissement dans ma relation avec Dieu. Il a suscité ma louange, il a suscité ma reconnaissance, il a fortifié ma confiance en Dieu. J'ai vu que Dieu pourvoyait à mes besoins par ce que vous avez fait. Donc il y a une vraie dimension spirituelle, mais c'est votre intérêt pour moi qui a eu cette résonance spirituelle. Autrement dit, le spirituel n'est pas ici une façon de zapper l'humain, mais au contraire, l'acte des Philippiens a été reçu comme il était, et comme il était, il a aussi retenti spirituellement. Il a fortifié Paul dans sa foi, et Paul le dit. Mais Paul continue à parler de lui, et à parler de la façon dont il envisage les circonstances de sa vie. Et ici, il a une formule un petit peu étonnante. Après avoir dit merci de ce qu'ils ont fait pour lui, il dit « Je ne dis pas cela en raison de mes besoins. » Je ne dis pas cela en raison de mes besoins. Autrement dit, Paul tient d'une certaine façon à relativiser ses besoins. Qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce que Paul serait en train de dire à ses frères et sœurs « Merci, c'est gentil ce que vous avez fait pour moi, mais vous savez, au fond, je n'avais besoin de rien. » Bonjour l'encouragement à dire les choses comme cela. Ce n'est pas cela, me semble-t-il, ce que Paul veut dire. Son souci est plutôt de préciser dans une belle sincérité qu'il ne fait pas de ses besoins un absolu. Je ne dis pas cela à cause de mes besoins. Mes besoins ne sont pas pour moi un absolu. Paul est apôtre, c'est un homme épris d'action, de liberté, mais il est en prison. Il n'a pas pour autant tout focalisé sur ses besoins, sur la réalisation de ses désirs. Il ne crie pas à Dieu chaque jour, il faut que tu me sortes de là, il faut que tu me donnes une vie meilleure. Sa perspective est autre, il dit, j'ai appris à me contenter de l'état ou des circonstances dans lesquelles je me trouve. Je ne fais pas de mes besoins, de ce que je pourrais imaginer pour ma vie. J'en fais pas la chose essentielle. Ce qui compte pour moi, c'est de vivre avec le Seigneur dans la situation où je me trouve. Il y a là une parole forte, un témoignage fort de la façon dont Paul envisage sa vie et de ses circonstances. Et au cœur de cela, il y a cette idée de contentement. J'ai appris à me contenter de l'état où, dans l'état où je me trouve. L'idée de satisfaction, ce qui fait que je peux être bien. Et Paul dit simplement, c'est là où je me trouve que j'ai à découvrir ce qui me permet d'être bien. Je ne veux pas faire dépendre de telle ou telle circonstance extérieure, de telle ou telle condition extérieure, le fait que je sois bien. J'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Et Paul, en parlant de se contenter de l'état où il se trouve, emploie un mot qui a donné en français le mot « autarcie ». Quelqu'un qui vit en autarcie, c'est quelqu'un qui se suffit lui-même d'une certaine façon, quelqu'un qui n'est pas dépendant de l'extérieur. Et Paul, alors c'était une qualité qui était très prisée dans la morale de ceux des gens qu'on appelait les stoïciens, qui valorisaient la manière d'être très forte dans la vie. Et il disait, il faut vraiment, le sage ne doit être dépendant de rien, ni de l'opinion des autres, ni des amis qu'il a ou qu'il n'a pas, ni des circonstances qu'il traverse, car le sage doit se suffire lui-même. Et Paul reprend un petit peu cette idée-là. Il reprend ce langage, mais il le transforme. Il le transforme. Il accepte cette idée de ne pas dépendre de l'extérieur, en pensant à tous les besoins, à toutes les circonstances. Je ne dépends pas fondamentalement des circonstances de vie. Je ne dépends pas, pour être bien, de la réalisation de mes besoins, de tout ce que je pourrais rêver et vouloir être. Donc, dans ce sens-là, il accepte cette idée de dire il faut ne pas dépendre des circonstances ou de la réalisation de nos besoins pour être bien. Mais en ce qui concerne les ressources, il transforme la notion. Et il dit, ce qui permet d'avoir des ressources, c'est pas moi qui serais autosuffisant, mais dit-il, mes ressources, je les trouve en Jésus. Je les trouve en Jésus. Je puis tout, dit-il, par celui qui me fortifie. Je ne veux pas donc dépendre de la réalisation de mes besoins pour être bien, mais je puis tout par celui qui est là, avec moi, et qui me fortifie. Et c'est la façon dont Paul transforme complètement cette idée de se suffire à soi-même. Oui, il est vrai, nous ne devons pas dépendre de la réalisation de tels besoins pour enfin être bien, enfin vivre. Mais nous ne sommes pas seuls à le faire. Il y a le Seigneur Jésus qui est là, et avec lui, nous pouvons vraiment découvrir qu'en toutes circonstances, dans l'abondance, dans la disette, dans la joie, dans la difficulté, il y a des ressources à découvrir, et vraiment, c'est comme cela que l'on peut vivre. C'est beau d'entendre ce témoignage. Et d'entendre ce témoignage de quelqu'un dans la situation de Paul. C'est pas quelqu'un qui fait de la théorie sur son en étant très bien dans une situation facile. Paul est un homme, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui était épris de liberté, épris d'action, et qui pourtant se trouve emprisonné, limité dans toutes ses capacités d'action. Voilà un homme qui a des projets à revendre et qui depuis des années est en prison. Et c'est cet homme-là qui peut dire « J'apprends à me contenter, à découvrir vraiment les ressources qu'il y a dans la situation où je me trouve. J'ai appris à trouver mes ressources dans l'état où je suis. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre aussi dans l'abondance. Si je peux sortir de prison, très bien. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Il nous faut écouter ce témoignage. Ne pas faire dépendre pour nous la vie, la vraie, de tel ou tel besoin auquel nous aspirons qu'il soit enfin comblé. De ne pas faire dépendre d'être bien du fait que tel ou tel projet se réalise enfin, que telle ou telle position nous l'atteignons enfin. Accepter la vie telle qu'elle nous est donnée. Accepter qu'il y ait des étapes. Accepter qu'il y ait des temps et des saisons. Paul parle d'être dans l'abondance, mais aussi dans la disette. Il y a des temps, il y a des saisons. Apprendre en chaque situation à puiser nos essentiels en Dieu et découvrir la force du Seigneur qui est là et qui nous vivifie. Je puis tout, dit Paul, par celui qui me fortifie et qui permet de ne pas dépendre de la réalisation de nos besoins ou de nos rêves. C'est vraiment la présence fidèle du Seigneur. Et ce témoignage de Paul est aussi une promesse pour nous. Sentons-nous aujourd'hui le besoin de soutien, le besoin d'encouragement? Jésus est notre force, notre recours. Je puis tout par celui qui me fortifie, justement. Sommes-nous fatigués? Sommes-nous découragés? Jésus veut nous renouveler si nous venons à lui. Nous pouvons aller à lui. Nous sentons-nous vulnérables par rapport à telle ou telle tentation? Jésus est là pour nous rendre plus forts, afin de résister. Redoutons-nous un passage qu'il nous faut traverser? Nous pouvons nous attendre à lui. Il sera là, notre soutien. Sommes-nous sur le point de nous engager dans une activité, une responsabilité? Le Seigneur sera là pour nous affermir, pour nous équiper, pour nous donner les ressources face à la situation. J'ai parlé au futur en envisageant toutes sortes de situations, mais rappelons-nous qu'au présent, plusieurs expérimentent déjà la vérité de cette promesse. Et si nous interrogeons les uns ou les autres, plusieurs pourraient nous dire « Oui, j'ai des circonstances de vie parfois pas évidentes, mais je découvre que le Seigneur est là. Et oui, je puis tout, je puis tenir par celui qui me fortifie. » Alors cette promesse n'est pas une promesse qui nous garantit que nous allons tout survoler. « Je puis tout » ne veut pas dire « je survole tout à l'aise ». C'est pas ça. Ça ne veut pas dire non plus « je suis capable de tout comme si je devenais le Tout-Puissant ». Paul, quand il écrit cela, est et reste en prison. « Je puis tout », cela veut dire pour lui « je trouve des ressources suffisantes. Je peux trouver toutes mes ressources dans celui qui me fortifie. » Mais c'est pas quelque chose qui vient comme cela. C'est un apprentissage. C'est une école. J'ai appris, dit-il, à me contenter, à accepter et à trouver mes ressources. J'ai appris à me contenter dans l'état où je me trouve et à trouver mes ressources en Jésus. Au quotidien, il faudra puiser le nécessaire auprès du Seigneur et marcher, affronter avec la force reçue. Je puis tout par celui qui me fortifie. J'ai appris à vivre dans toutes sortes de circonstances et je sais le faire ainsi. Vous aurez remarqué qu'il faut apprendre aussi à vivre dans l'abondance, pas que dans la difficulté. J'ai appris à vivre dans l'abondance comme dans la difficulté. Et peut-être il faut juste nous rappeler que ce n'est pas toujours évident quand tout va bien, quand on ne manque de rien, quand la vie nous offre tout ce que nous désirons, ce n'est pas évident de ne pas baisser la garde. Il faut aussi là veiller à rester attaché au Seigneur, à ne pas juste céder à tout ce qui passe, à ce qui nous est proposé. Avis pour les vacances, quand tout ira bien, il nous faudra apprendre aussi, pendant les vacances, à bien vivre avec le Seigneur, sans pour autant nous crisper. Car savoir vivre dans l'abondance, c'est aussi recevoir ces moments comme des dons de Dieu, comme des grâces de Dieu, comme nous l'avons dit tout à l'heure, en jouir pleinement dans la gratitude. Et cela aussi, le Seigneur veut nous aider à bien le faire. Paul dit donc les ressources de sa vie, dans ces circonstances différentes qui sont les siennes et qui ne sont pas forcément les plus faciles. Est-ce que cela veut dire, parce que nous avons toutes nos ressources en Jésus, que nous n'avons plus besoin de personne? Paul, à nouveau, est très fin dans ses équilibres. Il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie, mais, ajoute-t-il, mais vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » Et ça, je trouve, c'est magnifique. « Je puis tout, les plus hautes ressources nous sont données en Jésus, mais vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » Il y a chez Paul un vrai besoin de solidarité, alors même qu'il peut trouver sa force en Jésus-Christ. Et Paul nous invite à maintenir ensemble les deux, d'un côté les ressources en Jésus et l'appréciation de ce qui nous vient aussi par les uns, par les autres. Et c'est vrai que nous avons besoin de garder ces deux choses ensemble. Pour nous-mêmes, nous avons besoin de l'aide du Seigneur, de chercher cette aide auprès de lui jour après jour, et nous pouvons compter sur cette aide. Mais cela ne nous coupe pas de ce que nous pouvons recevoir aussi des autres, et d'apprécier les encouragements que nous pouvons recevoir des uns et des autres, les prières des uns et des autres. Nous ne vivons pas en autarcie dans le sens d'être coupés des autres non plus. Il y a là une source de bienfaits qui est bonne et par laquelle aussi le Seigneur veut nous fortifier. Mais je dirais qu'il nous faut aussi savoir unir la confiance en Dieu et le soutien fraternel dans l'autre sens, c'est-à-dire lorsque nous pensons à nos frères et à nos sœurs. Nous pouvons nous dire, en pensant à l'un ou à l'autre, oui, Dieu va le soutenir, Dieu va le fortifier. Et nous pouvons prier même pour que Dieu soutienne et fortifie telle ou telle personne. Nous pouvons nous réjouir aussi même lorsque nous voyons que, à l'évidence, le Seigneur soutient quelqu'un de manière très efficace. Mais penser cela ne doit pas, mais il ne faut pas s'arrêter là. Et il ne s'agit pas juste de dire, Dieu prend soin de cette personne, très bien. Le fait que le Seigneur puisse fortifier l'un ou l'autre ne veut pas dire que nous sommes quittes, nous, de toute action. Car, alors même que la force est donnée par le Christ, le besoin de solidarité demeure. Et nous ne devons pas l'oublier, nous ne devons pas le négliger. Et Paul dit justement, rend ce beau témoignage, Dieu me donne ce dont j'ai besoin, mais ça m'a vraiment fait du bien qu'on me vienne en aide. Et nous devons garder ça en mémoire lorsque nous prions pour les uns, pour les autres. Et ça donne le sentiment, ça nous encourage à être concrets dans notre soutien pour les uns, pour les autres. Oui, si nous prions pour quelqu'un, c'est bien. Mais c'est bien aussi de manifester éventuellement d'une autre façon que nous pensons à cette personne. Si nous mettons de temps en temps un texto à quelqu'un pour qui nous prions, ce sera pas mal parce que ça permettra à cette personne à la fois de savoir qu'on prie pour elle et d'avoir un petit geste concret. Ça fait du bien, j'en suis sûr qu'il y a des gens qui disent « Waouh, un petit texto là d'un tel ou d'un tel, ça montre qu'il pense à moi. » Alors que si je prie tout seul, on ne le saura pas. Et ça encourage. Soyons concrets dans notre façon de penser aux autres, tout comme les Philippiens ont été concrets à l'égard de l'apôtre Paul. Prenons des nouvelles des uns et des autres. Soucions-nous parfois aussi, peut-être même de besoins pratiques, matériels, financiers. Pensons à tout cela, en tout respect, bien sûr. Mais ne nous contentons pas de dire « Oui, le Seigneur pourvoira ». Rappelons-nous de Paul, « Je peux tout par celui qui me fortifie, mais vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » Les chrétiens de Philippe se sont engagés donc aux côtés de l'apôtre par un geste concret. Ils ont envoyé par Épaphrodite. Mais en faisant ça, ils étaient dans la ligne d'un engagement qui était le lien déjà bien avant. Et un engagement qui s'est fait vraiment dans la durée. Et lorsque Paul pense à ce qu'il a reçu des Philippiens, juste tout récemment par Épaphrodite, ça lui rappelle aussi tout l'engagement dans la durée des chrétiens de Philippe. Et c'est ce qu'il dit au verset 15. Il dit « Vous êtes vraiment des gens qui êtes entrés en compte avec moi ». Il dit « Aucune église ne l'a fait, mais vous, vous êtes entrés en compte avec moi pour ce que vous donniez et receviez ». Alors Paul emploie ici un terme un peu comptable, « entrer en compte avec ». Alors c'est pas pour dire qu'on est rentré dans une relation où on calcule tout, où on note tout, mais c'est plutôt pour dire que les chrétiens de Philippe avaient fait un choix de soutenir régulièrement l'apôtre Paul. Et pour eux, c'était vraiment une question qui était importante. Ils se sentaient responsables d'un soutien régulier pour l'apôtre Paul. Et ils avaient décidé, ils s'étaient obligés à une sorte de soutien vraiment sérieux, à une continuité, parce qu'ils avaient le sentiment d'avoir beaucoup reçu de l'apôtre Paul. Ils avaient décidé d'être partenaires de l'apôtre Paul, partenaires de l'homme, partenaires de son ministère. Et Paul dit, vous avez été seul à le faire. Et donc, il souligne cette dimension-là. Il me semble que là, nous avons un autre aspect qui est important à noter, c'est que si les actions ponctuelles ont du sens, les engagements ponctuels ont du sens, il est très beau aussi de dire ici ou là de faire des engagements dans la durée. Prendre part ponctuellement à la détresse ou à la situation difficile de quelqu'un, c'est une chose et une bonne chose, mais devenir partenaire de vie pour cette personne est une autre chose et c'est quelque chose de très précieux. Paul dit aux chrétiens de Philippe, vraiment, vous êtes entrés avec moi dans une relation très sérieuse, très engagée. Et il y a quelque chose qui est bon, qui est précieux pour moi. Et je pense que ça vaut la peine aussi de nous interroger à cet endroit-là. Est-ce que nous avons des personnes envers qui nous nous considérons comme partenaires dans la durée? Des gens, par exemple, pour qui nous disons, pour telle personne vraiment, besoin, je veux prier pour cette personne vraiment régulièrement. Être un vrai partenaire pour elle, pour cette personne, en priant pour elle. Est-ce qu'il y a des personnes peut-être que nous suivrons un peu plus particulièrement dans une étape de leur vie, dans une situation particulière? Des personnes que nous prenons à cœur tout spécialement et qui savent qu'elles peuvent compter sur nous, qu'elles peuvent compter sur notre soutien. Ça peut être un soutien personnel, en disant « je m'intéresse à toi ». Ça peut prendre aussi, ici ou là, la forme d'un soutien financier, quelqu'un qui a un besoin, qui est en situation difficile, qu'on sache qu'il y a aussi là une manière de pouvoir compter sur nous. Un bel exemple aussi de partenariat dans la durée est le parrainage d'enfants. On s'engage financièrement chaque mois à l'égard d'un enfant, au travers d'une association. Ça permet à cet enfant de pouvoir être scolarisé, de manger tous les jours à l'école, et on peut accompagner comme cela un enfant sur toute sa scolarité pendant des années et des années. Être partenaire de la vie, de la croissance de cet enfant, c'est très beau comme démarche aussi. L'œuvre de Dieu également a besoin de ses soutiens réguliers. Certains pasteurs de petites églises ont besoin de partenaires personnels, privés, pour les aider dans leur ministère. Certains missionnaires, certains implanteurs d'églises ont besoin, vraiment dépendent de soutien individuel pour pouvoir exercer leur ministère, pour pouvoir vivre et faire vivre leur famille. Certaines institutions, comme les organismes de formation, la faculté de Vaud, l'Institut biblique de Nogent, ont besoin de gens qui donnent régulièrement. Et il faut que ce soit des entrées sur lesquelles on peut compter. C'est ça ce qui aide aussi une œuvre à tenir dans la durée. Bien des partenariats sont possibles. Et Paul ici dit aux chrétiens de Philippe, j'apprécie vraiment le fait que, oui, vous êtes engagés envers moi, non seulement quand il y avait telle ou telle situation particulière ou difficile, Mais vous avez pris à cœur de m'aider régulièrement. Chaque fois que l'occasion était possible, vous avez pris ça sur vous. Et il y a là quelque chose de très appréciable et qui permet d'avancer. Paul a apprécié l'engagement régulier des chrétiens de Philippe. Il l'a vécu comme un lien particulier, un lien précieux pour lui. Mais de nouveau, on voit Paul faire une précision, tout comme tout à l'heure par rapport aux besoins. Il dit, verset 17, « Ce n'est pas que je recherche les dons, mais ce que je recherche, c'est le fruit abondant porté à votre compte. » Paul de nouveau marque une petite distance, tout comme il l'avait fait lorsqu'il parlait de ses besoins et de la joie que les chrétiens de Philippe aient répondu à ses besoins. Il ne veut surtout pas se poser comme quelqu'un qui profiterait de son lien avec les églises qu'il a créées pour s'enrichir à leurs dépens, au nom de la dette que ces gens auraient à son égard. Et c'est pour ça qu'il dit « Ce n'est pas que je recherche les dons ». Et le fait que Paul a veillé ainsi à ne pas être quelqu'un qui profite de sa situation, il avait créé beaucoup d'églises, et il aurait pu finalement faire en sorte de dire toutes ces églises, vous avez une grande dette à mon égard. Il aurait pu attendre et s'arranger pour que ces églises veillent à lui donner beaucoup d'argent. Il dit non, c'est surtout pas ce que je recherche. Et Paul a vraiment fait très attention de ne pas peser financièrement sur les églises qu'il fondait. Il a souvent préféré même travailler de ses mains pour subvenir à ses besoins. Pourquoi ? Alors sur le principe, Paul est clair. Il dit, il est normal et juste que ceux qui annoncent l'Évangile vivent de l'Évangile. C'est ce qu'il dit dans 1 Corinthiens au chapitre 9. Il est normal aussi qu'une communauté qui bénéficie régulièrement d'un ministère soutienne ce ministère. Dans Galates 6, verset 6, il dit que celui qui reçoit l'enseignement de la parole fasse une part dans ses biens pour celui qui l'instruit. Donc c'est clair sur le principe. C'est pour cela aussi que nous sommes rémunérés en tant que serviteurs de l'Église ici. Mais en ce qui le concerne, Paul n'a jamais utilisé ce droit, jamais, pour les églises qu'il fondait. Et l'une des raisons est liée au contexte. Il y avait dans le monde antique de nombreux charlatans, des gens qui se prétendaient ou qui étaient éducateurs, philosophes, et qui proposaient leurs services à des familles, à des maisonnées, etc. Mais dont le but était surtout et d'abord de se faire de l'argent. Et ces gens étaient souvent dénoncés, critiqués dans les textes anciens. On a encore des textes qui le disent aujourd'hui. Et Paul, extérieurement, pouvait être assimilé à ces gens-là. Il proposait lui aussi un enseignement, l'enseignement de l'Évangile. Il était reçu dans les maisons, il formait des communautés. Et il était facile de faire des proies financières de ces gens-là, comme le faisaient toutes sortes de personnes autour de lui qui dépendaient des uns et des autres. Et cela, Paul l'a toujours refusé. Et s'il l'a refusé, c'était pour préserver la vérité de l'Évangile. Ce qui compte, c'est le message. Et pour préserver cela, Paul n'a pas voulu qu'il y ait d'interférence financière, d'interférence d'argent, qu'on puisse dire « je prêche ça pour gagner ça ». Il a voulu dire « l'Évangile a sa valeur en tant que tel ». Et c'est ainsi que Paul a eu d'infinies précautions sur ces questions financières. Lorsqu'il a organisé une collecte, par exemple, dans toutes les églises d'Asie pour Jérusalem, il n'a pas pris lui-même un seul centime. Chaque fois qu'une église donnait de l'argent, c'était un délégué de cette église qui était avec Paul et qui apportait l'argent à Jérusalem. Et Paul a voulu vraiment, de cette façon-là, faire très attention à ce niveau-là, sur ces questions. Sur ces questions d'argent, il a été très cohérent. Il a refusé que son ministère soit une source d'enrichissement. Et quand il dit « ce n'est pas que je recherche les dons », c'était pas une formule pieuse pour créer l'effet contraire. Certains disent « oh, je ne cherche pas de dons », et on comprenne, « il est très désintéressé, il faudra l'aider ». Ce n'est pas du tout cela. C'était quelque chose de vrai, quelque chose de cohérent. Et c'est pour ça aussi qu'en exprimant sa gratitude, Il met vite une limite. Il dit, écoutez, j'ai tout reçu de vous et je suis comblé. Hein? Il ne glisse pas une petite phrase en disant, oh, on pourrait encore faire ceci ou cela pour l'œuvre de Dieu, ce qui pourrait engendrer un nouveau don. Non, 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 non. Je suis comblé, j'ai tout reçu de vous. Paul accepte avec joie ce qu'on lui donne, mais il refuse d'utiliser sa situation pour demander plus encore. Et alors, une fois qu'il a bien posé ses limites, là, Paul peut dire vraiment ce qui le réjouit. Il dit, qu'est-ce qui me réjouit? Ce qui me réjouit, c'est ce qui exprime votre générosité. Elle est une vraie offrande, une offrande faite pour Dieu, pour son œuvre. Et le Seigneur l'accepte, le Seigneur l'agrée, cette offrande, comme un parfum de bonne odeur. Il dit aussi, c'est un beau fruit en vous, un beau fruit de l'œuvre de Dieu dans votre vie. Et moi, j'aime voir des beaux fruits chez les chrétiens que j'ai amenés au Seigneur ou pour lesquels je prie. Et Paul dit, oui, cela je le recherche, cela je souhaite, ce qui sera porté à votre compte un jour lorsque Jésus-Christ reviendra. Et voyez donc, voilà l'attitude de Paul. Et il veille là aussi à être très clair par rapport à ses frères, par rapport au don qu'il leur fait. Mais il dit aussi qu'en effet, l'engagement que l'on prend pour le Seigneur, c'est quelque chose que le Seigneur accepte, qu'il agrée comme une vraie offrande et qui a un beau fruit, qui est un beau fruit souhaitable dans notre vie. Et la confiance, alors, de l'apôtre pour ses frères et sœurs est entière. Elle dit, vous avez été généreux, oui, et sachez que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Tout comme il disait pour lui-même, je puis tout par celui qui me fortifie, il a cette confiance que le Seigneur a des ressources envers ses frères et sœurs qui prennent part à l'œuvre de Dieu et qui l'ont fait de cette belle manière, à la fois ponctuellement et dans un partenariat à longue durée. N'ayons donc pas peur de prendre part, nous aussi, à l'œuvre de Dieu, au soutien des uns ou des autres. Le Seigneur sait être là, il apprécie, c'est une offrande, un parfum agréable pour lui, et c'est aussi, il saura veiller aussi sur ceux qui donnent, sur ceux qui se donnent, mon Dieu pourvoira, dit Paul, à tous vos besoins. Alors que retirer pour nous de cette fin de l'épître de Paul aux Philippiens? Moi je retiens personnellement cette double relation, cette double dimension, d'un côté la relation avec Dieu. On peut puiser en Dieu tout ce dont on a besoin. Le Seigneur est là pour nous fortifier. Le Seigneur sera là pour pourvoir à tous nos besoins avec richesse lorsque nous nous engageons pour lui. Et puis cette dimension horizontale qui nous dit, oui, nous pouvons recevoir les uns des autres. Nous pouvons être partenaires les uns des autres dans l'œuvre de Dieu, nous soutenir mutuellement et agir aussi de manière efficace. Il y a là, me semble-t-il, avec cette double dimension de ressourcement personnel et d'accompagnement, de partenariat, il y a là l'ouverture à bien des joies, à bien des bénédictions. Nous allons partir pour l'été. Certains d'entre nous, nous aurons des moments de tranquillité, de ressourcement, c'est très bien. D'autres auront des moments d'engagement. Nous pouvons aussi, si nous sommes en ressourcement, pensez à ceux qui s'engageront un peu plus, ceux qui feront des camps, des colos, ceux qui ont différents secteurs d'activité. Prenons le temps, lui, de nous ressourcer auprès du Seigneur et veillons à rester bien reliés les uns aux autres, de vrais partenaires de prière, d'action, d'attention. Le soutien du Seigneur, en tout cas, ne nous fera pas défaut. Ah, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ, à Dieu notre Père, la gloire au siècle des siècles. Amen.